Philippe Franck, bonjour, très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Dupuis des nouvelles aventures de Largo Winch, le Sentil d'or. Depuis quelques années déjà, l'espace est devenu le nouveau champ de bataille, voire le terrain de jeu des grandes puissances. C'est déjà un thème que vous aviez abordé dans les Voies écarlates en 2007, qui parlait de la conquête spatiale, non ?
Dans les Voies écarlates
Ça remonte.
On parlait surtout de trading haute fréquence. Hein.
Et dans les thèmes aussi, je veux dire, d'actualité, où c'est ces champs de bataille, il y a l'Arctique, que vous aviez déjà abordé aussi dans l'heure du tigre. En fait, je m'interpellais à savoir, est-ce que si vous devancez l'actualité, vous avez toujours une longueur d'avance, finalement, par rapport au sujet traité par l'actualité, non ?
Moi, j'appelle pas ça une longueur d'avance, parce que si j'avais une longueur d'avance, je ferais de la SF, de la science-fiction. Or, justement, dans l'Argo, ce qui est la spécificité de cette série, c'est qu'elle est absolument contemporaine. Quand le lecteur ouvre l'album et lit l'aventure, et qu'il referme le bouquin, le monde n'a pas changé. Il est exactement comme je le présente dans l'histoire de fiction. Donc, j'essaye toujours d'être pile poil dans l'actualité. Le gros défi dans cet album-ci, en fait, dans ces deux, la frontière de la nuit et le sentil d'or, c'était que ce qui était de l'ordre de la fiction au moment où on a écrit l'histoire devienne de l'ordre de la réalité au moment où l'album allait sortir. Or, il se fait que il y a 2 ans, pendant l'été 2021, coup sur coup, Jeff Bezos, Richard Branson et Elon Musk ont tous les trois lancé leur propre engin de tourisme spatial et que l'album est sorti au mois de novembre, au moment où c'était déjà un état de fait. Si l'album était sorti au mois d'avril ou au mois de mai, ça aurait été de la science-fiction. Or, il se fait que cet été 2021 était le théâtre de choses qui n'avaient jamais eu lieu auparavant et qu'on racontait dans l'album de Largo.
Et finalement, je suppose que vous avez suivi le lancement ce week-end de Starship, hein ?
Oui, là je suis en déplacement, donc je suis pas au fait de l'actualité parce que je suis un peu occupé à d'autres choses, mais oui, habituellement je me tiens très 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 au courant. Je sais par exemple que la semaine passée, la station internationale, en tout cas l'équipe qui était de maintenance dehors, a perdu une boîte à outils à 100 000 euros. Bon, c'est dommage, ça fait...
Mais le Starship, finalement, c'est pour retourner sur la Lune, mais en même temps, c'est pour aller plus loin. Et c'est pour aller jusqu'à Mars, qui est finalement un des thèmes que vous traitez dans le Sentil d'or, non ?
C'est pas le thème principal, disons que c'est le projet qui tient à cœur à Jaron Menskin, qui est un des personnages principaux de cette aventure. Après, on peut discuter. Hein. Moi, les Elon Musk, je les adore, mais ils font peut-être rêver des milliers de personnes, mais je pense qu'ils ont tout faux. Des humains sur Mars, ça voudra dire que jamais plus ils ne remettront les pieds sur Terre. Mm-hmm. Pas parce que techniquement, ce n'est pas possible. Juste que les bactéries et les virus qu'ils vont amener sur Mars auront leur propre développement et ne feront plus partie de la guerre biologique qui règne sur Terre. Et que donc, les terriens ne voudront pas les voir revenir, parce qu'ils risquent d'amener des maladies qui sont inconnues chez nous. Et nous serons un danger colossal pour eux, parce que, en 100 ans, on peut très 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 bien... La guerre bactériologique, elle se fait, on l'a vu avec le Covid, hein, elle se fait au jour le jour. Hein. Elle est très réactive. C'est de l'armement et de la défense, constamment, et ça depuis la création de la vie. Donc, regardez les Indiens d'Amazonie qui sont rentrés en contact avec quelques Espagnols en 1600 et quelques.
Et qui a décimé les tribus. Hein.
En moins de 30 ans, la variole avait décimé la totalité des habitants du Mato Grosso. Donc quand les Espagnols sont revenus 30 ans après, il n'y avait plus personne. C'est pour ça qu'il y a ce mythe de l'Amazonie déserte, jungle, vierge, ce qui est faux. Le Mato Grosso était parsemé d'autoroutes, de villages, de moyens de routes de communication, et énormément peuplé. On le sait aujourd'hui à cause des recherches des archéologues, et tout ça a disparu en quelques années à cause d'une confrontation entre deux civilisations qui avaient vécu suffisamment longtemps, 100 000 ans, ou moins de 100 000 ans.
Sans se côtoyer.
Moins de 100 000 ans, parce que la colonisation de l'Amérique du Sud et du continent américain est assez récente par rapport au reste du monde. Voilà. Je pense que la colonisation de l'univers peut se faire, mais sans retour possible.
Et alors, finalement, c'est une des propositions qui est faite à la crème de la crème des milliardaires, finalement. C'est quand même pour partir et pour se créer un oasis, quand même.
Oui, oui. Alors, on ne dit pas dans l'histoire que cette oasis est destinée aux milliardaires. En fait, ce que Jarrod propose, c'est qu'ils laissent leur nom dans les livres d'histoire. Après,
c'est sous-entendu.
C'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande pas de partir et de s'isoler sur Mars. On leur demande juste de financer les expéditions.
L'aventure de l'Argo a débuté en novembre 1990. Donc, vous l'avez côtoyé depuis le début et vous avez suivi ses premiers pas. En quoi le personnage, les traits, la couleur ont changé au fil de ces 33 ans ?
Sous de nombreux aspects, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord parce que moi, quand j'ai attaqué cette saga, cette série, j'étais jeune dessinateur. J'avais que, on va dire, 4 albums à mon actif et que je débutais encore dans le dessin. Et que 30 ans ou plus de 30 ans après, j'ai évidemment mis à profit ce temps-là pour parfaire mon dessin. Et je vais vous dire que encore album après album, j'espère pouvoir faire mieux la fois suivante. Donc, évidemment, le personnage de l'Argo, les traits que je lui avais octroyés au début ne sont plus tout à fait les mêmes de ceux qu'il a aujourd'hui. Mais il y a Jean Vanhem qui dit une chose juste à propos des personnages de bande dessinée ou des personnages de fiction. C'est un peu comme nos enfants quand ils naissent. À la naissance, on ne les connaît pas trop. Bon, ils ont un aspect physique là, qu'on peut ou non reconnaître parce qu'ils ont l'air très familiaux. Mais le vrai fond de leur caractère, on va le découvrir au fil de leur développement et à l'adolescence et puis à l'âge adulte. Et c'est vraiment vers 21 ans, on va dire, qu'on connaît nos enfants. C'est-à-dire qu'on les a vus grandir et on a fait connaissance avec eux au fil de ces années. Et un personnage de bande dessinée ou un personnage de roman, c'est un peu pareil. Mmh. C'est-à-dire qu'on le fait naître sur le papier à un moment donné. Et c'est pas pour ça qu'on le connaît. C'est en fonction de tout ce qu'on va lui faire dire, de ce qu'on ne lui fera pas dire aussi. Le non-dit a autant d'importance que le dit, qu'on finira par appréhender et finalement connaître parfaitement ce personnage.
Est-ce qu'il y a des modes ou des tendances que vous avez dû respecter au fil de ces 30 ans pour rester dans l'air du temps, dirons-nous ?
Plus difficile, peut-être, c'est la mode vestimentaire.
Oui.
Parce que j'ai mon épouse qui régulièrement regarde un petit peu ce que je dessine. Et quand je dessine un truc franchement démodé, elle me le fait remarquer. Elle me dit, écoute, pour faire un effort, il n'y a plus aucune fille qui s'habille comme ça aujourd'hui.
Ce qui est assez incroyable dans votre collection, c'est le souci du détail. Et ici, une fois de plus, et là, vous avez été consulté Jean-François Clairvoy, qui est astronaute, qui a quand même volé 2 fois avec Atlantis et 1 fois avec Discovery, et l'astronome Jean-Louis Eudier, qui a géré le télescope de Schmidt. Quels sont leur collaboration et leur intervention dans la création de cet album?
Ben, Jean-Louis Audier, parce que j'avais imaginé ce planétarium dans le Menzing Space Center. Et que voilà, à partir du moment où on commence à mettre des constellations ou des galaxies avec des numéros, il faut que ces numéros soient justes. Parce que moi, je connais certains astronomes professionnels qui découvrent de temps en temps un nouveau planétarium. Et ce genre de type, ils sont capables de faire deux pas dans le planétarium, lever la tête au ciel et dire « il en manque une ». Et donc... Bon, moi, je me méfie énormément de ces spécialistes parce qu'ils sont redoutables. Ils scannent littéralement comme un ordinateur la voûte céleste. Et donc, je voulais que ce soit absolument juste. Donc, j'ai fait appel à... c'est par l'intermédiaire de Jean-François Clairvoy, évidemment, que j'ai eu les coordonnées de Jean-Louis Audier. Mais voilà, il m'a bien démerdé parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient totalement fausses dans ce que j'avais écrit.
Au départ.
Et il a tout rectifié. Après, pour Jean-François, c'est une autre affaire. Il se fait qu'on est amis depuis une sacrée paire d'années. Mais pour des raisons qui n'étaient pas vraiment liées à la bande dessinée. Et tout d'un coup, je lui ai dit, bon, ben là, j'ai une histoire où je vais avoir besoin de tes conseils parce qu'il y a plein de choses que... Je ne suis pas un spécialiste des vols spatiaux. Et je lui dis, bon, ben là, j'ai une navette suborbitale. D'abord, on habille comment les personnages? Est-ce qu'on leur met des tenues extravéhiculaires? Ou bien est-ce qu'on leur met... on peut les habiller en chemise, jeans et baskets Et quels sont les systèmes de sécurité sur ce genre d'engin? Est-ce qu'on prévoit des sièges éjectables ou une capsule éjectable Et donc, tout ça a été élaboré dès le départ.
C'est vrai qu'il y a plusieurs questions comme ça qui surgissent au moment de la conception. Ça.
Ben, parce que si on a un problème vraiment dans l'espace et qu'un homme se retrouve dans le vide spatial, comme le dit Jean-François, c'est simple. Pas de pression atmosphérique. L'eau se met tout de suite à bouillir et à s'évaporer parce qu'il n'y a pas la pression atmosphérique qui la garde sous son élément liquide. Absence de pression, donc vous faites l'expérience, hein, vous allez faire bouillir de l'eau au sommet de l'Everest, vous allez voir qu'elle bout beaucoup plus rapidement que si vous la faites bouillir au niveau de la mer. Donc, un homme n'a aucune chance de survie sans scaphandre dans le vide sidéral. Je n'ose même pas imaginer ce qui lui arrive, mais... Comme on est quand même composé à 90% de 90% d'eau, ça peut aller très vite et ça peut faire très mal. Donc voilà, on meurt pas de froid, on meurt pas de chaud, on meurt d'une manière beaucoup plus terrible. Et donc il me dit bon ben dans une navette suborbitale, comme elle va de toute manière retomber, s'il y a un problème, ben la seule chose à faire c'est avoir comme les pilotes de chasse, c'est-à-dire une tenue, une combinaison et un masque alimenté par de l'oxygène, le temps que la navette retrouve les basses couches de l'atmosphère pour pouvoir s'éjecter, soit avec un siège éjectable, soit en parachute.
Voilà. Quatrième collaboration avec Eric Giacometti. Est-ce que vous avez maintenant instauré un modus operandi au niveau de la mise en place de l'histoire et des personnages?
Disons que ce qui n'a pas changé, comme Eric Giacometti n'est pas, on va dire, un scénariste de BD chevronné, il écrit l'histoire, et puis c'est à moi de voir après si on va la développer, comment on la développe dans 46 pages, les choses que je dois supprimer ou les choses que je dois augmenter pour couvrir cette place de 46 pages. Et ensuite le découpage et souvent les dialogues. Voilà. Mais depuis le début, notre collaboration est un peu calquée sur ce mode-là. Il écrit l'histoire, moi je l'adapte et je la fais rentrer dans un album de 46 pages.
En ce qui concerne donc l'aspect international de l'Arc of Winch, comment vous choisissez un petit peu les endroits dans lesquels vous allez situer vos actions, notamment le Griffith Park et l'observatoire. J'étais d'ailleurs très surpris de pouvoir d'apprendre qu'on pouvait le privatiser.
Non. Il y a eu un concert, je ne sais plus de quelle chanteuse sur le
parking. Adèle, je crois. Ouais.
Voilà, de Griffiths, il n'y a pas longtemps. Alors, bon, les libertés que je prends avec la réalité sont toujours peut-être sujettes à discussion. Dans le scénario d'origine, c'était un hôtel en bord de mer. Et puis, c'est vrai que je ne suis pas très fan de l'architecture et de la décoration des hôtels américains, qui est un peu comme vieillot, souvent, sous certains aspects, très chargé.
Très kitsch.
Ouais, très kitsch, comparé au luxe, aux hôtels de luxe européens. Après tout, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais moi, je me sens un peu oppressé dans les hôtels américains. Et donc, tout de suite, en épluchant un petit peu ma documentation et en allant chercher un peu Los Angeles sur Google, je me suis rendu compte qu'il y avait le Griffith, parce que j'y ai pas été à Los Angeles, à part pour une escale un jour ou l'autre dans l'aéroport. J'y ai jamais mis les pieds. Et tout de suite, il m'est apparu que le Griffith était idéalement placé parce qu'on surplombait downtown, qu'on avait la colline Hollywood derrière, et que ce lieu est quand même assez
emblématique,
magique, emblématique, magique. Il a de la gueule, et que c'était tout indiqué. Un observatoire qui a des télescopes braqués sur les étoiles. Pour un gars qui rêve d'aller sur Mars, je le voyais mieux là que dans un hôtel au bord du Pacifique. Donc tout de suite, dès que j'ai vu cet endroit, ce bâtiment, je me dis, c'est ça ou rien d'autre. Et ensuite, comme il existe au Griffith, un ajout qui a été fait il y a pas très longtemps, il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, qui s'appelle le Café du bout de l'univers, qui est derrière les baies vitrées comme je l'ai dessiné, avec une terrasse sur laquelle on peut prendre un petit café en regardant le soleil se coucher sur Los Angeles. J'ai juste amélioré, on va dire, le café du bout de l'univers en 3D, parce que j'ai fait appel à Jean-Michel Ponzio qui est... Alors lui, c'est un spécialiste.
C'est ça, la création des décors 3D.
Voilà, oui. C'est-à-dire que ma problématique dans cet espace, c'était d'avoir toutes les faces, les quatre faces en fait de la salle, de savoir ce qu'il y avait sur chacune de ces faces. Parce que quand on imagine les choses intérieurement, dans sa petite tête, on peut dessiner une face ou deux. Mais souvent, on imagine que les faces dont on va avoir besoin. Et on oublie d'imaginer le contre-champ qui est derrière. Et le fait de travailler en 3D, on s'astreint à définir un lieu clos, sans flou. On lui donne un style. On met 100 fauteuils en perspective aussi dans un espace. Je vous promets que dessiner déjà une dizaine de fauteuils en perspective dans une pièce sur un carrelage à damier, c'est déjà une gageure pour un dessinateur chevronné. Mais alors une centaine, en plus en arc de cercle, avec une perspective particulière, vous pouvez y passer un mois, vous n'arriverez à rien. Donc il fallait absolument avoir ces fauteuils en perspective en arc de cercle autour de cette scène. Et c'est là où la 3D devient intéressante, parce qu'après, on balade la caméra, on la met où on veut, on sort les captures d'écran.
C'est superbe.
Et on a quelque chose qui tient la route. Alors, certains pourront dire que c'est de la triche. Bon, il y en a d'autres qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui.
Pourquoi pas.
Moi, j'en suis resté pour l'instant à la 3D, Et c'est déjà pas mal parce que ça, l'effet est au rendez-vous et c'est une manière de... Ces choses-là, je ne les aurais pas dessinées sans la 3D. Voilà. Il faut bien se dire que j'aurais fait l'impasse sur des vues générales. Je me serais abstenu et là, tout d'un coup, je peux dessiner des choses.
Aller plus loin.
Ouais, qui m'auraient été inaccessibles sans le.
Et Jurassic, vous avez dû demander l'autorisation d'Universal pour pour reproduire ces scènes de parc.
Non, parce que déjà cette fois-ci, j'ai été un citoyen exemplaire, c'est-à-dire que je ne suis pas allé.
C'est pas souvent le cas, c'est ça.
Non, mais je veux dire que par les temps qui courent, avec le réchauffement climatique, où on dit bon, ce serait peut-être bien de ne plus prendre l'avion systématiquement pour partir en vacances. Moi, j'ai l'habitude de prendre l'avion pour aller sur place faire mes repérages et mes prises de vue photo. Cette fois-ci, en fait, les États-Unis étaient fermés à cause du Covid. Mmh. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai demandé à pouvoir rentrer sur le sol des États-Unis. Et bon, c'était impossible. Donc, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais à Los Angeles. Je lui ai demandé de me trouver un opérateur de drone, les autorisations nécessaires. Et il m'a sorti, en fait, il m'a envoyé des films et des photos de Downtown. Donc j'ai économisé un vol aller, un vol retour en 747, une semaine sur place à Los Angeles.
Une location de voiture.
La location de voiture, la location de l'hélico et une semaine dans le Yosemite. Donc,
quelle économie.
Non, mais c'est extraordinaire. Pour 1 500 €, j'avais le matériel pour dessiner le bouquin. Alors qu'habituellement, ça me coûte entre 15 et 20 000. Donc voilà, et plus l'empreinte carbone que ça génère. Donc j'étais assez fier de moi quand même de pouvoir dessiner cet album entièrement de chez moi, juste avec une petite connexion Internet. Et le parc Universal, il est allé me faire des photos avec son portable et donc il m'a envoyé les photos. Parce que ça c'est permis, c'est-à-dire que je lui aurais pas demandé de le survoler en drone, là ça aurait été répréhensible, il n'aurait pas eu l'autorisation.
C'est un diptyque, une fois de plus, à une période où les plateformes balancent l'ensemble de leurs épisodes d'une série en une fois. Est-ce que maintenir le principe du diptyque, c'est un tour de force, ou est-ce que vous êtes vraiment sadique?
Non, ça devient un problème. Ça devient réellement un problème, cette fringale qu'ont les consommateurs de fiction.
Tout de suite,
sans attendre. Et j'essaye de constituer, tant bien que mal, alors je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'essaye de constituer une équipe avec un encreur ou peut-être deux encreurs qui me seconderaient. Parce qu'un album de Largo, c'est dessiné au crayon, sur papier en 4 mois et demi. En revanche, l'ancrage, je prends une semaine par page. Donc l'ancrage, c'est très vite fait, on a vite fait le calcul. 46 semaines, c'est presque une année entière. Une année, c'est 52 semaines. Donc si je pouvais diminuer par 2 ou par 3 le temps de cet ancrage, ça serait magnifique, parce qu'on pourrait revenir à un album tous les ans. La couleur, je ne le compte pas dans l'équation parce qu'elle se fait en même temps que l'ancrage au fur et à mesure de la livraison des pages. Donc, en général, quand moi je termine l'ancrage, le coloriste a 2 pages de retard. Donc ça intervient dans les 15 jours à la fin de l'ancrage. Mais cet ancrage dure beaucoup trop longtemps et donc moi j'aimerais bien avoir des collaborateurs qui sachent, alors peut-être pas les personnages, mais déjà tous les véhicules, les buildings, les décors, s'ils pouvaient déjà me dépanner sur cet aspect-là de l'ancrage, ça serait pas mal, parce que les personnages, c'est ce qui est le plus vite ancré, peut-être le plus difficile à ancrer aussi pour quelqu'un qui n'est pas le dessinateur à l'origine de la série, mais c'est quand même, moi, la chose qui me pose le moins de problèmes, c'est l'ancrage du personnage. Donc ça va très vite. En revanche, dessiner 1000 fenêtres dans un building, oui, ça prend du temps.
Une dernière question. L'année prochaine sortira le troisième volet au cinéma des aventures de Largo Winch. Vous avez eu un contact avec Olivier Massé-Deplace ?
Qui est cet homme ?
Philippe, un grand merci. Et donc, on rappelle Le Sentinel d'Or qui est actuellement en librairie. Merci beaucoup.
Merci à vous.